France Info.
Les finances de la France étaient donc au cœur d'un débat sans vote cet après-midi à l'Assemblée. Il s'agissait de revenir sur le dérapage du déficit public en 2023, 5,5% du PIB contre les 4,9% attendus. Il s'agissait aussi de parler de la trajectoire à suivre pour les trois prochaines années. L'occasion pour les oppositions de taper très fort sur la majorité et le gouvernement, accusé de mensonges, d'insincérité et j'en passe, accusé de vouloir contourner le Parlement. Parmi les prises de parole, Jean-Philippe Tanguy du groupe Rassemblement National, écoutez.
Vous n'y arriverez pas et vous n'y arriverez jamais. Vous n'avez en réalité ni le courage, ni la détermination, ni les solutions pour rétablir les comptes publics et briser la chaîne d'incompétence des gouvernements qui, depuis 50 ans, ont mis les finances de la France systématiquement en déficit, accumulant 3 000 milliards de dettes. Votre arrogance, encore aujourd'hui, et votre prétention à réussir demain là où vous avez échoué, prouvent que le ridicule ne tue pas. Prenez garde, monsieur le ministre, que ce même ridicule ne vous protège pas de la débâcle électorale que les Français pourraient vous infliger le 9 juin en soutenant Jordan Bardella.
Des attaques auxquelles le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a répondu. Il s'est une nouvelle fois défendu de toute insincérité. Il a dénoncé ce qui compare la situation de la France aujourd'hui à celle de la Grèce en 2010. Et il a même tendu la main aux oppositions. On l'écoute.
Je le redis, je tends la main à tous les parlementaires qui souhaitent rétablir les finances publiques. Venez participer à ce rétablissement de nos finances publiques, défendez cette stratégie. Et laissons de côté, une bonne fois pour toutes, les querelles politiques qui ne sont pas dans l'intérêt de la France.
La main tendue de Bruno Le Maire, c'est une tactique politique. Il tend la main, mais il va se la faire mordre, Alexandra Schwarzbrod.
Oui, alors là, chacun est dans son rôle. Hein. Jean-Philippe Tanguy qui tape comme un sourd sur le gouvernement. N'importe qui à sa place en ferait autant. Il n'est pas vraiment crédible, parce que je ne suis pas sûre que le RN est lui-même la solution. Et Bruno Le Maire, il exagère un peu, il est un peu gonflé, parce que ce que le gouvernement paye aussi, ce que la majorité paye en ce moment aussi, c'est l'absence de débat démocratique dans les hémicycle, hein, puisque la plupart des projets de finances, lois de finances, sont passés à coup de 49.3 ou de décret. Il n'y a quasiment pas eu de débat. Et donc, ils prennent ça en boomerang en ce moment. Parce que les oppositions ont beau jeu de dire, attendez, vous avez fait ça dans votre coin et nous, on n'a pas été associés, il n'y a pas eu de débat. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Et il arrive trop tard, François Nordwein, ce débat au Parlement?
Surtout sans vote, c'est là-dessus qu'il faut insister, à mon avis.
C'est un débat pour rien, comme disent les oppositions.
Non, les opinions vont s'exprimer, et le débat va se prolonger, rien n'est réglé. D'ailleurs, le Haut Conseil des Finances Publiques indique que les perspectives du gouvernement pour 2027 ne seront sans doute pas tenues, et ça, c'est pas le cœur des oppositions, c'est des spécialistes des questions économiques qui disent ça, les 3% en 2027, ce n'est pas encore fait. Mais il faut distinguer les débats. Moi, je pense que il y a le débat de fond sur les finances publiques, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles on débat en France sur des sujets aussi graves qu'un déficit public à 5,1%, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je trouve que...
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Il aurait fallu discuter sérieusement au Parlement et faire une loi de finances rectificative éventuellement pour qu'on parle sérieusement dans les procédures légales sur les questions budgétaires. Moi, ça me gêne beaucoup. D'ailleurs, cette manière de balayer le Parlement, elle est ancienne. Pendant la crise sanitaire, le Parlement n'a eu rien à dire et je pense que le mépris des corps intermédiaires, là je parle pas seulement du Parlement, est assez bien installé dans la majorité, et je pense que ça lui coûte très cher sur le plan électoral, dans ses relations avec les Français même.
Je vous vois opiner de la tête, Patricia Lémonia. Le gouvernement a eu peur d'en passer par le Parlement ?
Le gouvernement, sur la loi de finances, oui, puisqu'il a fait que du 49-3, c'est que ça ne fonctionnait pas. Mais il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait qu'il y a eu cette assurance de Bruno Le Maire et cette impression de mensonge volontaire pratiquement devant l'Assemblée nationale, alors que il n'y avait pas seulement Moscovici qui mettait en garde, il y avait aussi la Banque de France qui mettait en garde le gouvernement. Et ça remonte déjà à 2022. C'est ancien. Hein. Les finances publiques ne sont pas tenues, disaient certains corps, en tout cas, de l'État. Donc, il y a cette question-là. Et puis, je crois que cette inquiétude et cette rigidité que l'on voit au sein du gouvernement, ça vient aussi du fait que son marqueur à ce gouvernement, c'était quand même la tenue des finances publiques. Et là, justement, il est pris la main dans le sac, il ne les tient pas, ses finances publiques. Et son électorat, principalement, est très attaché à la rigueur, à la tenue des finances publiques. Et donc, en période électorale, préélectorale, comme on est là, eh bien, ça fait plus que mauvais genre. C'est très mauvais.
20h, 21h, les informés, Agathe Lambret.
Retour en plateau avec nos informés ce soir, Alexandra Schwarzbrock, directrice adjointe de la rédaction de Libération, Patricia Lémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales, et François Ernenwein, éditorialiste politique au journal Réforme. Alors Patricia Lémonière, je vous entendais pointer la faiblesse de cet exécutif dans sa communication, notamment sur les finances publiques, mais en même temps, le gouvernement a peut-être poussé un ouf de soulagement. Vendredi soir, la note de la France n'a pas été dégradée par Moody's et Fitch, les agences de notation. Est-ce que c'est un faux répit, François Ernenwein ?
Il faudra attendre, on l'a dit à l'instant, le Standard & Poor's, c'est le 31 mai.
C'est la plus importante des trois ?
C'est en tous les cas le jugement qui fait référence, en tous les cas. Donc, attendons la fin du parcours et des jugements des agences de notation pour avoir un avis assuré sur l'état des finances françaises quand elles sont notées à l'extérieur. Non pas que j'ai une confiance aveugle dans les agences de notation et leur fonctionnement, mais en tous les cas, c'est une référence.
Et ce qu'il y a, c'est qu'elle arrive, elle est particulièrement dangereuse, cette date, parce que ça va arriver à quelques jours des élections européennes. Et on Donc, si jamais c'est défavorable, ça va être très, très mauvais pour le gouvernement. Donc là, je pense que...
Ça va secouer.
Ouais. Et visiblement, l'exécutif a des raisons de s'inquiéter à propos de ce que vous dites, parce que pour Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, eh bien Bruno Le Maire, qui veut qui vise en tout cas toujours un retour sous la barre des 3% du déficit en 2027, eh bien Bruno Le Maire, selon lui, est trop optimiste. Écoutez.
Je crois que passer de 5,1% à moins de 3% en 2027, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous observerez que les deux agences de notation, Fitch et Moody's, ont dit qu'elles n'y croyaient pas trop, en quelque sorte, qu'elles étaient sceptiques. Et pour tout vous dire, je le suis aussi. Il y a une chose très importante en matière de finances publiques, très importante. Il y a un débat à l'Assemblée cet après-midi. Il faut dire la vérité aux Français. Et quelle qu'elle soit, il faut leur dire d'où on part, et où on va arriver et comment on fait entre les deux.
Alors Alexandra Schwarzbrock, est-ce que le gouvernement raconte des carabistouilles aux Français, pour reprendre une expression chère au président ?
En tout cas, je pense qu'il a pêché par optimisme dans ses prévisions de croissance, puisqu'en 2023, c'était pas au rendez-vous. On en saura peut-être un peu plus demain mardi, puisque l'INSEE doit publier son estimation de l'évolution du PIB au premier trimestre. Donc ça pourra donner une petite idée de vers quoi on se dirige. Non, le problème aussi, c'est qu'il y a une division entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Ils n'ont pas tellement la même vision des choses. Bruno Le Maire voudrait un projet de loi de finances rectificative, Emmanuel Macron n'en veut pas. Bruno Le Maire voudrait jouer sur les dépenses, c'est-à-dire réduire les dépenses. Emmanuel Macron espère plutôt jouer sur les recettes, c'est-à-dire espérer que la croissance revienne.
Vous avez raison, ils ne sont pas du tout d'accord. Bruno Le Maire a voulu camper un peu le père la rigueur quand Emmanuel Macron lui faisait à sa façon. Il a perdu des plumes. Bruno Le Maire, c'est lui qui est en cause aujourd'hui aussi ou pas ?
En tout cas, la rentrée peut être compliquée, oui. Bruno Le Maire, là, il joue gros quand même en ce moment, et on sait qu'il a des ambitions. Il se voit un destin, et donc là, je pense qu'il joue un peu sur une, il est un peu sur une ligne de crête.
Et ça va être d'autant plus difficile, Patricia Lémonière, que l'exécutif veut passer sous la barre des 3% de déficit en 2027, mais sans augmenter les impôts. Est-ce que c'est réaliste, ça ?
Alors, non seulement ils ne veulent pas augmenter les impôts, mais ils sont en désaccord entre le président et Bruno Le Maire sur comment faire toutes ces économies. 10 milliards, 20 milliards, où les prendre, sur quel poste ? Alors, tout le monde agite la réforme de l'administration française, qui est la fameuse... C'est en gros le gadget qu'on ressort chaque fois qu'il y a une crise. Il faut réformer l'administration française, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, il faut simplifier... On entend ça, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on entend ça depuis 20 ans, et qu'en fait, personne n'arrive à vraiment faire cette réforme qui, effectivement, ferait des des économies, parce que notre pays a un nombre de fonctionnaires beaucoup plus important que dans bon nombre de pays. Et puis, ce qui est, je crois, aussi très inquiétant, c'est, au-delà de la France, c'est la situation européenne qui n'est pas bonne. Quand on regarde par rapport aux États-Unis et par rapport aux autres pays émergents, on a un réel décrochage. Décrochage de salaire, décrochage de revenus, même à niveau, si vous voulez, constant, en faisant des parallèles logiques, la vieille Europe, en quelque sorte, décroche. Et donc, c'est des problèmes de rentabilité de notre économie. Donc, c'est, si vous voulez, le président et Bruno Le Maire se retrouvent devant... En fait, ils payent 50 ans d'incurie, pratiquement.
Et ce point, Emmanuel Macron, le décrochage dont vous parliez, il l'a évoqué dans son discours de la Sorbonne numéro 2. Et en même temps, l'exécutif, depuis des mois, François Hennerwein, l'exécutif se félicite que sa politique de baisse des charges, baisse de certains impôts, ait rendu la France plus attractive. Alors, elle est où, la vérité? Les investisseurs reviennent ou c'est la catastrophe?
Non, on en revient à la question de la méthode par laquelle on a commencé. Incontestablement, les déficits appellent des réponses. Personne ne le conteste. Mais si vous voulez conduire une politique de rigueur relative après une période plus faste, etc., il faut bien admettre que ça ne peut se faire qu'avec l'adhésion des Français. En tous les cas, un travail...
D'ailleurs, on ne parle pas de rigueur, on parle de sérieux budgétaire.
Oui, mais enfin... C'est ça que ça veut dire. Quand on coupe dans l'aide au développement, quand on coupe les crédits à l'écologie ou à l'enseignement supérieur, on entre dans une logique qui ressemble étrangement à de la rigueur.
Donc, et on veut réformer l'assurance chômage.
Voilà, etc.
Donc, l'exécutif ne va pas chercher l'argent là où il faudrait aller le chercher?
À mon avis, il n'a pas la bonne méthode. Ce que j'essayais de dire à l'instant, c'est que quand vous voulez convaincre les Français, et la pédagogie de la réforme a gagné du terrain en France... sur plusieurs décennies, les Français admettent globalement qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi en matière économique. Mais encore une fois, si on n'associe pas les Français, à travers le débat démocratique, aux choix qui sont faits, ça ressemble au coup de gourdin qu'on assène. Et ça, c'est une méthodologie absolument déplorable et pas efficace, au fond.
Et peut-être que si l'exécutif est si prudent et si hésitant, c'est parce que, Alexandra Schwarzbord, vous en parlez, ce débat intervient dans le contexte d'une campagne laborieuse,
difficile,
pour la majorité. Ouais. Valérie Hayer, la tête de liste pour la majorité présidentielle, autour de 16-17% dans les sondages, distancée de plus de 10 points par Jordan Bardella. Finalement, ce débat sur les finances publiques, c'est la dernière chose que souhaitait Emmanuel Macron, non?
Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Et d'ailleurs, vous faisiez référence à son discours de la Sorbonne, hein, souvenez-vous, son deuxième point, c'était la prospérité. Et là, c'est vrai que là, on en est loin. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a beaucoup poussé Emmanuel Macron pour que Bruno Le Maire soit tête de liste pour les européennes. Et Bruno Le Maire a refusé tout net. Non, là, c'est chaud, parce que en effet, on n'est pas très loin de ce que la majorité voit arriver avec angoisse, c'est le croisement des courbes entre Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste pour le Parti Socialiste, et Valérie Hayer pour Renaissance.
Exactement, parce que la majorité a aujourd'hui deux adversaires. Jordan Bardella, l'adversaire principal de 2019, mais la surprise de ces européennes, c'est Raphaël Glucksmann qui progresse.
Oui.
Est-ce que l'exécutif a renoncé à s'adresser à ses électeurs de centre-gauche qui sont tentés de voter pour Raphaël Glucksmann, ou est-ce qu'aujourd'hui il assume d'être de droite? On parlait à l'instant des coupes dans l'écologie, de la réforme de l'assurance chômage.
Je pense que vu ce qu'il annonce, il assume pas mal d'être de droite. Hein. Je ne crois pas qu'il fasse beaucoup d'efforts, qu'il ait fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour attirer sa frange gauche. Parce que quand on voit tous les retours en arrière dans le domaine de l'écologie, sur tout ce qui est en train de se détricoter sur l'assurance chômage, c'est franchement pas des signaux qui parlent beaucoup à sa frange gauche.
Vous voulez dire un petit
mot? L'idée, rapidement, l'idée c'était quand même de faire un gouvernement qui rassemble Renaissance et enfin la droite et le centre, en quelque sorte, hein, et en laissant les deux extrêmes de chaque côté et les partis socialistes et le reliquat du Parti Socialiste. Et ça, Emmanuel Macron n'est pas arrivé à faire ce regroupement avec les Républicains n'ont pas envie de faire ce cadeau pour l'instant à Emmanuel Macron, puisqu'ils agit toujours, d'ailleurs, la menace d'une motion de censure. Même si, pour l'instant, il la laisse en suspens, mais elle est toujours là.
En se déportant à droite, il a perdu ce qui le constituait en 2017, ni à droite, ni à gauche, et il a perdu l'occasion d'occuper pleinement le centre, comme vient de le dire Patricia.